Ce que nous voulons, c'est voir Jésus dans l'évangile de Marc. Donc, au chapitre 2, et versets 18 à 22 aujourd'hui, je fais la lecture dans Marc, chapitre 2, verset 18. Il dit: les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf sur un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. En fait, le texte principal que je veux mettre en valeur, c'est justement la deuxième partie du dernier verset que nous avons lu. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et c'est ça le principe, la conclusion de Jésus. C'est le cœur du message qu'il veut communiquer. Parce que sinon, lorsque nous lisons ce passage, et peut-être dans votre première lecture de l'Évangile, vous avez lu ce passage-là, et puis vous êtes dit: ça a l'air intéressant, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, en tous les cas. Hein, il n'y a pas une histoire, il n'y a rien qui se passe. Ça, on pourrait dire, c'est même pas intéressant, parce que il n'y a rien. Et puis, parce que l'être humain, naturellement, il cherche le sensationnel, il cherche quelque chose qui tape à l'œil. L'homme cherche des manifestations de puissance. L'homme aime voir quelqu'un qui exprime, qui montre de la connaissance, même si je ne comprends rien. Ah, c'était beau, il a dit des choses vraiment intelligentes. Hein? Même si j'ai rien compris. Hein? Mais on aime ça, on dit: ah oui, ça c'est un grand orateur, ça il est bien. Hein, vous écoutez les hommes politiques quand ils parlent, à la fin on ne sait pas ce qu'il a dit, mais on a besoin de journalistes pour nous expliquer ce qu'il a dit. Et puis, ou bien on est attiré par l'inexplicable, hein, le miracle, l'extraordinaire, alors ça s'intéresse, ça attire la foule. Mais bon, une petite histoire comme ça, une petite discussion, et puis en fait on a l'impression que Jésus ne répond même pas à la question. Quelqu'un soulève la question du jeûne, et puis Jésus n'y répond même pas. On dit, mais on n'apprend rien, on ne sait pas s'il faut jeûner ou pas jeûner, on n'a rien compris. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que ce récit se trouve dans les évangiles synoptiques, donc dans Matthieu, Marc et Luc. C'est-à-dire, trois fois, l'Esprit de Dieu a dit à celui qui écrivait, il a dit à Matthieu, il a dit à Marc, il a dit à Luc, il a dit: tu écris ça. Mets ça dedans. Et si l'Esprit de Dieu a dit il faut le mettre, c'est qu'il y a quelque chose pour nous. Vous savez, chaque fois que vous lisez la Bible et puis vous ne comprenez pas, vous dites je ne sais pas pourquoi il a mis ça, dites-vous c'est seulement j'ai pas vu. Mais s'il l'a dit, il y a une bonne raison. Hein? Alors, justement, si le Saint-Esprit trouve que ce passage est important et qu'il faut le répéter, eh bien, c'est à nous de prendre le temps d'essayer de le comprendre et de voir quel principe Jésus a pour nous, hein, ce qu'il veut nous enseigner. Et donc, premièrement, ce que je vois ici dans ce passage, c'est que Jésus, eh bien, il revient au thème le plus important. Les gens lui ont suggéré un thème, mais lui, il est passé à un thème plus important que le leur. Vous savez, souvent, les gens, ils vous lancent une question comme ça, c'est pour faire discuter. Mais si on prend l'exemple de Jésus, on sait prendre cela et le tourner à quelque chose de plus important. Hein? Quelqu'un vous dit: est-ce que c'est permis de manger du porc? vous répondez, je ne sais pas, Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui sort. Alors peut-être qu'il faudrait parler des paroles. Et là, vous êtes passé sur un autre niveau. Et tout d'un coup, lui, il dit, oh, non, bon, on change de sujet. Hein. Là, tu commences à toucher de près. Ben, c'est ça, hein, c'est comme ça que Jésus fait. Et combien de fois il le fait, et dans l'Écriture. Donc ça, c'est la première chose que nous voulons voir. La deuxième chose que nous allons voir, c'est comment Jésus, il est contre le fait, le rafistolage dans nos vies. Il n'aime pas le rafistolage. Bon, on va développer ça. Et troisièmement, eh bien, ce qu'il recommande, c'est la transformation. Le vin nouveau dans des outres neuves. Hein, transformation. On ne récupère rien du passé. Je reprends donc, nous allons voir le point 1. Jésus revient sur le thème le plus important. Ici, quelqu'un soulève la question, on a presque l'impression que c'est une troisième personne qui dit, ben, les disciples de Jean, eux, ils jeûnent. Les disciples des pharisiens, eux, jeûnent. Alors que, bon, les disciples des pharisiens, ça n'existait pas. Mais bon, supposons qu'il fait référence aux gens qui veulent devenir pharisiens ou quelque chose comme ça, ou bien ceux qui sont sous l'enseignement des pharisiens. En tous les cas, il dit, les disciples de Jean, ils jeûnent. Les disciples des pharisiens, ils jeûnent. Et toi, tes disciples, ils jeûnent pas. Vous savez, c'est comme si quelqu'un venait et disait à Jésus, eh ben, les disciples des autres jeûnent, donc toi aussi tes disciples doivent jeûner. Dans un sens, c'est un principe qu'on entend souvent, il dit, tout le monde le fait, donc il faut le faire. Ça ne va pas loin avec Jésus. Vous dites à Jésus, tout le monde le fait, donc je le fais. Et lui, il dit, non, ça ne pèse pas lourd, ça. Parce qu'il dit, c'est seulement chez les animaux qu'il y en a un qui le fait, tous le font. Mais pas chez les êtres humains. Quelqu'un vous dit, il dit, fais ça. Je dis, ah non, j'aime pas. Il dit, mais tout le monde le fait. Répondez-lui, nous ne sommes pas des moutons. Je ne suis pas un mouton. Dites-lui comme ça. Et ça sera un type de réponse comme Jésus. Il dit, on n'est pas des moutons. On est des individus. On est des, on n'est pas des animaux. Hein? Le monde essaye de nous rappeler, nous faire croire que nous sommes des animaux. Et ce raisonnement de tous le font, ça s'applique aux animaux. Vous voyez un chat, vous avez une idée de comment tous les chats se comportent. Vous voyez un lion, vous savez comment se comportent tous les lions. Vous n'avez pas besoin d'aller étudier tous les lions. Mais vous regardez un être humain, vous ne savez pas comment les autres êtres humains. Monsieur et Madame Barnes, c'est pas pareil. Pourtant, elle essaie de me changer depuis presque 40 ans, et moi j'essaie de la changer depuis presque 40 ans, mais c'est toujours pas pareil. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Dieu nous a donné cette capacité, on est différents. Les gens, à l'école, hein, les jeunes là, vous allez à l'école, ils vous disent, ben nous on descend du... Faut pas insulter les singes, mais... Parce que les singes disent, nous, on fait pas la guerre comme font les hommes et tout ça, nous, on est mieux que eux. Hein? On se comporte mieux, on se respecte plus que les êtres humains. Alors, ne nous insultez pas en disant que l'être humain descend du singe. Pourquoi ? Parce que, une grande différence, les animaux communiquent entre eux, mais les êtres humains se parlent entre eux. Ils expriment des pensées. Les animaux, ils n'ont pas de pensées. Ils ne peuvent pas penser quelque chose qu'ils n'ont jamais pensé avant. Tandis que l'être humain le fait. Donc nous sommes des êtres humains. Dieu nous traite comme des êtres humains. Les hommes nous traitent comme des animaux. Mais Dieu nous traite comme des humains. Et n'oublions jamais que nous sommes des êtres humains. Nous portons en nous l'image de Dieu. Et donc nous avons le droit de réfléchir, de penser et de prendre nos propres décisions. Alors ces gens, ils ont dit, mais les disciples, les autres, ils jeûnent tous. Et Jésus dit, ben alors... Ce n'est pas un argument chez moi. Ça, on fait ce que... Alors Jésus répond, mais c'est intéressant comment il répond, parce que il dit, comme on l'a vu dimanche dernier, il dit une phrase, on peut pas ne pas être d'accord. Il dit, mais quand on est à un mariage, les amis de l'époux, ils ne se mettent pas à jeûner quand ils sont au mariage, de leur ami qui se marie. C'est un moment de réjouissance, c'est pas un moment de tristesse. On ne jeûne pas quand l'époux est présent. C'est celui qui a posé la question, il a dit, oui, bien sûr, ça n'existe pas. Mais lui, après, lui s'est arrêté là. Il a dit, mais alors ? Tandis que, en fait, si vous regardez de plus près, et si vous êtes enfant de Dieu, et si vous avez l'Esprit de Dieu, vous comprenez que Jésus est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus loin, prophétique. Il est en train de parler de lui-même en tant que l'époux, et il dit, et quand il est présent, on se réjouit. Tout à l'heure, on disait, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, ça nous a fait chanter. Rien que de penser, Dieu est avec nous, tout d'un coup, on se sent mieux. Hein? Quand vous êtes tout seul dans votre lit, et puis ça gronde, et puis surtout que ça gronde entre les oreilles, dites, mais Dieu est avec moi. Et ça soulage. Ça nous réjouit, on se réjouit parce que Dieu est avec nous. Il a dit, oui, quand l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront. Et en fait, vous pouvez regarder dans la Bible, vous voyez que les disciples de Jésus, après l'enlèvement, après Pentecôte, ils ont jeûné. Regardez dans Actes chapitre 13, quand ils cherchaient la face de Dieu, les anciens de l'église d'Antioche, ils priaient et ils jeûnaient pour être dirigés par Dieu. Et c'est pendant qu'ils priaient et jeûnaient que Dieu leur a dit, mettez à part Saul et Barnabas pour le service. On peut trouver dans le chapitre 14 aussi, d'Actes, verset 23, 2 Corinthiens 6, 5, l'apôtre Paul dit, j'ai passé des moments dans le jeûne devant Dieu, en faisant la liste des souffrances. Il a dit, j'ai jeûné. Oui, Jésus a dit, quand l'époux sera enlevé physiquement, eh bien, mes disciples jeûneront. Je ne vais pas développer le thème du jeûne, mais je veux faire remarquer en passant que le jeûne est toujours associé à la prière. Et puis, il y a une remarque que le prophète Ésaïe fait aussi. Lisons, Ésaïe 58. Ésaïe 58, Ésaïe, poussé par l'Esprit de Dieu, veut souligner le fait que le jeûne n'est pas uniquement le fait de se priver de nourriture. Peut-être là, le mois prochain, au mois de juillet, ce sera le ramadan des musulmans, mais c'est uniquement se priver de nourriture. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de spirituel. C'est strictement se priver de nourriture. Dans les églises catholiques et orthodoxes, ils ont eu un jeûne avant la crucifixion, on s'est privé de quelque chose. Mais sinon, la vie continue. Tandis que dans la Bible, quand il y a jeûne, c'est associé à la prière. Et dans Ésaïe 58, je vous ai donné le temps de trouver, Ésaïe 58, et je lis à partir du verset 4. Il dit, voici, et en fait, il est en train de dire aux enfants d'Israël, voilà comment vous jeûnez mal. Il dit, voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jour auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu es loin du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, c'est-à-dire pauvre, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassurera ton âme dans les lieux arides. Voilà, il dit, le vrai jeûne, c'est d'abord, pratique la justice, humilie-toi, règle les relations avec ton frère, avec ton prochain, ensuite tu peux jeûner et tu viens me voir. Hein, c'est là, le jeûne, et je ne vais pas en dire plus, mais je vous laisse avec ces pensées-là, et vous pourrez méditer, même relire ces passages. En tous les cas, Jésus, eux, soulève la question du jeûne, et Jésus ne rentre pas dans la discussion. Et si vous avez des amis musulmans, ils vont soulever la question du jeûne aussi. Ben, ce n'est pas la peine de discuter longtemps. Le jeûne, ça existe chez nous, mais on le fait discrètement entre nous et Dieu. On n'en parle pas à tout le monde. Et surtout, on ne s'en plaint pas. Et puis là, vous leur fermerez la bouche. Et puis après, de passer à autre chose. J'ai dit, mais finalement, le jeûne, c'est pourquoi ? C'est pour purifier son cœur. Alors pendant ce temps, il faudrait prier. Il faudrait marcher pur, il faudrait confesser son péché et aimer son prochain plus que... Et prendre des résolutions pour la suite. Et là, vous êtes en train de passer à quelque chose de supérieur et pour rien dire. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. C'est de savoir passer d'un thème à quelque chose de plus important. C'est pas l'autre qui décide ce qu'on discute, c'est nous qui enseignons la parole de Dieu. Je reviens sur Marc, chapitre 2, et ensuite nous avons, Jésus continue avec une parabole. Une parabole, il y a deux aspects, deux illustrations, une du tissu et l'autre du vin nouveau dans les outres. Mais la première chose, enfin, la première, et je relis le principe qu'il dit, il dit « Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. » Il dit en fait, là, il y a quelqu'un qui a des bonnes intentions. Il y a le vieil habit qui a une petite déchirure. L'habit est usé et il y a une petite déchirure. Alors lui, il prend un beau bout de tissu, solide, il dit comme ça, ça va tenir. Et il coud autour de la déchirure, il coud une pièce. Il le coupe bien. Il dit comme ça, c'est du solide, ça va tenir. Mais vous savez ce qui va arriver la prochaine fois qu'il y a la tension sur ce tissu, où est-ce que ça va déchirer ? C'est pas c'est pas le morceau de tissu neuf qui va déchirer, c'est tout autour du tissu neuf. Et tout d'un coup, on aura un trou aussi grand que le tissu qu'on vient d'ajouter. Il dit, parce que c'est le tissu le plus faible qui va déchirer. Et donc, c'est l'ancien qui va déchirer. Et on a une déchirure encore plus grande. Hein, donc Jésus a dit ça, et les gens disent, oui, parce que de nos jours, il faut que j'explique, parce que de nos jours, on ne répare plus. Hein. Ça devient ancien, c'est déchiré, on jette, et on achète autre chose. Mais il y avait une époque où on réparait, hein, donc c'était parlant comme image. Et vous savez, ce qui arrive souvent, c'est que les hommes, justement, dans leur vie spirituelle, ils essayent de faire la même chose. Ils essayent de réparer leur vie spirituelle. J'ai ma vie spirituelle ou ma religion, c'est pas exactement ça, ça correspond pas. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah oui, je connais des évangéliques, ils ont des bonnes idées. Je vais ajouter quelques bonnes idées à ma pratique. Hein? Et on essaye de rafistoler, d'améliorer l'ancien. Les enfants d'Israël, ils ont fait un peu de ça. On appelle ça du syncrétisme, c'est-à-dire où on mélange un peu de l'enseignement de Dieu avec un peu les idées du monde. Un exemple, par exemple, que vous connaissez, c'est, vous savez, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, et puis après, Moïse est monté sur le mont Sinaï, il était avec Dieu pendant 40 jours, et en bas, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fabriqué un veau en or, et ils l'ont placé là, mais vous savez ce qui est extraordinaire, c'est pas seulement qu'ils ont mis un veau et qu'ils ont commencé à faire la fête, Mais vous savez ce qu'ils ont dit de ce veau? Il nous dit dans Exode chapitre 32, verset 5, eh bien, ils ont dit, Israël, voici l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, ils n'ont pas abandonné l'Éternel. Ils gardent l'idée éternelle, mais ils ont fait un veau. C'est-à-dire, ils marient le paganisme avec la vérité. Ils font un syncrétisme et ils ont fait quelque chose qui a finalement ça a plu. Les gens, ils ont commencé à faire la fête. Et Dieu dit non, non, on ne prend pas du drap neuf, on ne met pas sur des tissus anciens. Et ça a crié, et vous savez ce qui s'est passé là, c'était la débauche, c'était terrible, au point que Dieu avait envie, vous vous rendez compte, Dieu qui aime ce peuple, qui a fait des promesses à Abraham et tout ça, mais tellement ça l'a dégoûté qu'il avait envie de les tuer tous. Il avait envie, mais en même temps il ne voulait pas le faire. Donc il a permis à Moïse d'intercéder pour eux et il a pardonné, parce qu'au fond de son cœur il ne voulait pas. Mais à cause, leur comportement était digne d'un jugement terrible. Ou bien les Samaritains. Vous avez entendu parler des Samaritains dans la Bible. Si vous lisez dans 2 Rois chapitre 17, vous savez comment ils ont créé les Samaritains. C'était les enfants d'Israël avaient été déportés en Babylone et on a ramené un autre peuple en Israël. Et le peuple était là, puis tout d'un coup, ils ont commencé à se plaindre. Ils ont dit, ouais, les animaux sauvages, ils sont dangereux, ils nous détruisent, on ne sait pas vivre, tout ça. Alors, dans leur tête, ils ont dit, ah, ben, c'est parce que vous ne savez pas adorer le Dieu du pays. On va vous amener un prêtre juif, il va venir, il va vous expliquer comment adorer le Dieu du pays. Alors, ils amènent un prêtre, un lévite, certainement, et qu'ils l'amènent là, et les Samaritains, ils commencent à faire une salade avec un peu leur croyance et un peu avec le judaïsme, pour essayer d'arranger la situation. Et ça, vous pouvez le lire dans 2 Rois chapitre 17. Et puis, ça existe encore à l'époque de Jésus, hein, dans Jean chapitre 4, quand Jésus parle à la femme samaritaine, eh bien, elle dit, vous vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem, nous on dit que c'est sur cette montagne. Et en même temps, elle attend la venue du Messie. Elle dit, quand le Messie viendra, il nous expliquera. Donc il y avait un mélange de deux choses. Vous savez, Jésus, il n'accepte pas ce mélange. Il n'a jamais approuvé. Et j'espère que vous n'essayez pas d'essayer de mélanger la révélation de Dieu avec les idées des hommes. Que ce soit des idées d'une autre religion, que ce soit des idées que les hommes, soi-disant intelligents, ont ajoutées. On ne peut pas mélanger les idées de Dieu. Dieu a fait une révélation, il a révélé sa pensée. Apocalypse chapitre 22 et versets 18 et 19, il dit, celui qui ajoutera quoi que ce soit à cette révélation, ou celui qui enlèvera quelque chose, je le détruirai. Dieu est clair. Il a dit, j'ai dit ce que je voulais dire, et n'essayez pas d'ajouter à ce que j'ai dit. Est-ce que vous appréciez quand vous dites quelque chose que quelqu'un allez, il vous répète, mais il ajoute un peu ses idées à lui. Il dit, et c'est Steve qui l'a dit. Il dit, ah non, ça va pas, non? Tu dis exactement ce que j'ai dit, change rien. Sinon, tu mets ton nom, tu mets pas le mien. Et pourquoi est-ce que Dieu devrait accepter ça? C'est justement notre marche chrétienne doit être caractérisée par le credo des chrétiens fidèles depuis toujours. Le credo, c'est Sola Scriptura, l'écriture seule, que la Bible, rien d'autre. Est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible enseigne? Et rien d'autre, pas plus, pas moins. Hein? J'ai pas besoin de savoir plus que ce qu'il y a là-dedans, entre les deux couvertures. Faut pas déchirer les pages, faut pas en ajouter. En fait, dans la confession de foi de l'Église, j'ai dit. Nous croyons que la Bible est la seule autorité en matière de foi et de pratique. C'est-à-dire ce que je dois croire, il n'y a que la Bible qui décide, et ce que je fais, ce que je pratique, c'est la Bible qui décide. Hein? Et c'est la position, et c'est en fait, je dis en passant, c'est l'un des distinctifs des baptistes à l'origine. C'était l'une des choses qu'ils ont affirmées, il n'y a que la Bible, rien de plus. Bon, il y en a d'autres qui le disent aussi, hein, mais c'est une position. Et c'est la position de Jésus-Christ. Et nous devons, dans notre marche de tous les jours, on dit, mais qu'est-ce que dit la Bible? C'est pas M. Barnes, qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est pas bon, M. Barnes ou M. Tatawin, c'est pareil. C'est Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça qui importe. Et ne soyons pas de ces gens qui essayent de réparer l'habit ancien avec du drap neuf, des pièces neuves, parce que c'est pire. Il y a des gens qui disent, alors n'essayons pas de dire à quelqu'un, écoute, il n'est pas encore sauvé encore, il est encore perdu, il est encore du tissu ancien, et vous lui dites, mais voilà, le chrétien il doit faire ça, tu ne fumes pas, tu ne dois plus faire ça, il faut que tu lis ta Bible, mais sais-tu, c'est encore du tissu neuf, ancien. Ne lui mets pas, ne lui impose pas des pièces. Tu vas le détruire. Et c'est là où on arrive au point suivant, où il dit justement, Dieu, Jésus recommande la transformation. Et c'est là où il dit, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Encore une fois, il faudra que j'explique un peu, parce qu'on ne fait plus ça. Hein, maintenant, le vin, c'est dans les bouteilles. Ce n'est pas dans des outres, c'est des peaux d'animaux. Et une peau d'agneau, une peau de mouton. Et puis, on attache les pattes, on coupe partout. Et puis, c'est là-dedans. Mais vous savez, ce que le vin, on met du vin neuf, c'est-à-dire du vin qui vient d'être pressé, la fermentation a commencé. Et on met ce vin là-dedans, et puis après, il le ferme. Mais avec la fermentation, elle continue pendant un temps, et elle tend sur la peau, et elle tire sur la peau, mais parce que quand la peau est neuve, eh bien ça tient. Mais si c'est une outre de l'année dernière qui a déjà été tendue, et je mets du vin nouveau, quand je la tire dessus, qu'est-ce que ça va faire? Ça craque. Et après, on n'a ni l'outre, ni le vin. Alors Jésus a dit, et ça c'était un principe que eux ils comprenaient très bien, il dit on ne met jamais du vin nouveau dans des vieilles outres. Elles ne supporteraient pas. Et vous savez, de la même chose, nous ne devons pas imposer la foi chrétienne à quelqu'un qui a encore une vieille outre, une ancienne outre. Sa vie n'a pas changé, il n'a pas été régénéré. Ne lui donnez pas du vin nouveau. Ne lui mettez pas, dites, non, voilà, le chrétien, il doit faire ça. Peut-être ça me fait plaisir de le voir, il change des choses, mais il ne va pas tenir longtemps. Parce qu'il y a un moment, il ne peut plus. Pourquoi? Ben, il n'a pas, c'est pas naturel, c'est contre nature pour lui. Essayez d'enseigner à un cochon d'être resté propre. Il faudra vraiment le forcer, hein. Il faut l'enfermer dans une salle où il n'y a rien, il s'arrête propre et il sera malheureux. Parce que c'est contre nature. Vous savez, nous ne devons pas être comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Mais plutôt, eh bien, nous devons continuer dans cette voie nouvelle. Vous savez ce que l'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens 5, 17 ? Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont conservées, sont améliorées, sont rééduquées. C'est difficile, hein ? Il dit, les choses anciennes sont passées. Passées, ça veut dire quoi? Quand un train est passé, ça veut dire on ne le voit plus. Hein, il est passé. Vous avez raté le bus, il est passé. Ça veut dire que au mieux, je vois l'arrière du bus. Mais il est loin déjà, et il s'éloigne. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais remarquez qu'il dit seul si il est en Christ. Celui qui n'est pas en Christ, les choses sont anciennes ne sont pas passées. Il peut essayer de les forcer, il est dans un coin, il essaie de se retenir, se discipliner, il essaie de faire tout seul, le pauvre, pour nous faire plaisir, mais il est malheureux. Tandis que celui qui a été régénéré, c'est une peau neuve, une outre neuve. Là, on peut mettre du vin nouveau, le vin de l'évangile, là-dedans, et ça travaille, mais ça craque pas. Ça produit une autre vie. En fait, dans ce même passage, juste avant, ça c'était le verset 17, les versets 14 et 15 disent « Nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort, c'est-à-dire Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc le principe c'est celui qui est en Christ, eh bien, il s'est dit, Christ est mort. Il est mort pourquoi ? Il est mort pour que nous soyons en lui. C'est-à-dire que pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, on ne vit plus comme avant, mais on vit une nouvelle vie. Bon, ça ne correspond pas aux autres, mais ce n'est pas grave. Les disciples de Jean, ils font comme ça, les disciples des pharisiens font comme ça. Nous, on est disciples de Jésus-Christ. On fait comme lui, il nous enseigne. Donc, ne soyons pas, comme je l'ai dit, ne soyons pas comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. On l'a laissé, c'est parti, il ne faut pas aller le chercher. Je ne retourne pas. Et puis en fait, vous savez, et si vous avez fait l'expérience, quand on retourne à ce qu'on a perdu, ça n'a pas le goût que ça avait avant. Peut-être avant c'était un peu bon, mais après, mais quand on retourne, une fois qu'on a connu Jésus-Christ, ce n'est pas le même plaisir. Parce qu'on a une culpabilité. Les gens du monde, ils peuvent faire du péché, mais sans eux, ça ne dérange même pas. Un enfant de Dieu, il fait un petit quelque chose, il... puis surtout s'il lui arrive quelque chose, un malheur après, il dit « Ah, je sais que ce n'est pas ce que j'ai fait ça qui m'arrive. » Il a ça sur la conscience, il vit avec cette crainte, même si ce n'est pas vrai que c'est à cause de cela. Mais comme il a sur la conscience, hein, c'est comme celui qui est en train de voler, il entend du bruit, il est sûr que c'est la police. Pourquoi il a peur ? Et nous devons faire très attention. Hein? Nous devons rester fidèles à Dieu. En fait, dans le passage qui traite de la même chose, dans l'évangile de Luc, il ajoute une phrase à la fin. Et il dit, et personne, hein, ça c'est Luc 5, verset 39, il dit, et personne, après avoir bu du vieux vin, du vin vieux, ne veut du nouveau. Moi, je ne suis pas consommateur d'alcool, mais pour ceux qui le consomment, le vieux coûte plus cher que le nouveau. Plus il est ancien, et le prix monte. Hein. Dernièrement, il y a eu à l'Élysée, ils ont vendu du vin de la cave du palais de l'Élysée, et il y avait des bouteilles qui sont parties à 5 000 euros. Waouh ! Moi, j'aurais pu acheter une belle voiture avec 5 000 euros. Pas quelque chose qui se boit en deux minutes. Mais il a dit, celui qui a goûté du bon vin, eh ben, il n'achète plus le vin dans les cartons, les briques. Vous savez, et l'image, c'est celui qui a goûté à l'évangile de Jésus-Christ, celui qui a entendu, qui a goûté à la douceur de Jésus-Christ, celui qui a connu un Dieu d'amour plutôt qu'un Dieu qui fait peur. Hein, combien m'ont dit « Oui, j'ai grandi dans la religion, mais j'avais peur de Dieu. » Ou bien « Dieu était loin, mais maintenant, Dieu est prêt. Dieu est mon ami. Dieu est mon père. » Il dit, si on a goûté dans 1 Pierre, et je termine avec ce passage, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3, il dit « Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, donc les choses anciennes sont passées, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il dit, vous avez goûté, vous avez tété l'évangile, et vous avez trouvé ce lait bon. Eh bien, il disait, continuez, afin que vous croissiez dans cette vie nouvelle. Il ne faut pas se dire, ah ben oui, j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur, et alléluia, c'était super, c'était... Mais bon, ça fait 25 ans. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Eh ben, alléluia, je suis sauvé. Et la croissance? Hein, vous savez, un bébé nouveau-né, il y a quelqu'un ici qui attend pour bientôt un nouveau bébé. Et c'est tout mignon, c'est content, ça fait rien du tout. Ça pleure et ça dort, c'est tout. Mais si on est content. Mais si après 2 ans, ça continue comme ça, on commence à voir le médecin, hein, même avant. Et on se dit, ça ne va pas. Et les enfants du Seigneur, lui, il ne veut pas que des bébés nouveau-nés. Hein, il veut des bébés qui se développent. Et qui apprennent à marcher, et qui apprennent à parler, et à dire des choses. On connaît quelqu'un ici à Lyon, un bébé de 2 ans, il ne dit rien encore. Et ça commence, la maman commence à se tracasser un peu. Elle dit, mais parle pas, il dit ni papa, ni maman, ni rien du tout. Oui, mais Dieu, j'ai l'impression que Dieu, il a beaucoup d'enfants comme ça. Ils disent ni papa, ni maman, ni rien du tout. Il ne les entend jamais. Ils ne font que dormir. Où il pleure parce que ça ne va pas. Mais la question, c'est, on ne parle pas d'eux, on parle de nous. Hein. C'est nous qui sommes là. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Mais il dit, mais si on a goûté au vieux vin, on ne retourne pas à l'ancien, hein, au vin nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus dit, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous n'avez jamais pris cette décision, vous avez pris conscience que Jésus-Christ est mort pour vous. C'est pas, il est mort, beaucoup le savent qu'il est mort. Mais il est mort pour vous, pour votre péché. Et quand il a dit « Père, pardonne-leur », il a voulu vous inclure. Eh bien, il faut venir à lui et dire « Seigneur, pardonne-moi. Tu es mort pour moi, tu as déjà payé. Pardonne mon péché. » À ce moment-là, ce qui se passe, c'est, on appelle ça la nouvelle naissance. Et à ce moment-là, et nouvelle naissance, ça veut dire justement ça. C'est tout d'un coup, il y a une nouvelle créature qui n'existait pas avant. Elle vient de naître. Et à partir de là, il faut commencer à téter l'évangile de Jésus-Christ. À se nourrir du lait spirituel et pur, afin de croître et de continuer. Et même de passer du lait à la viande spirituelle et de croître en Jésus-Christ. Mais si nous sommes enfants de Dieu, si un jour nous avons reçu Jésus-Christ, eh bien, c'est de notre responsabilité que les choses anciennes soient passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez ce que arrivé à la femme de Lot, elle a regardé en arrière pour le passé, qu'est-ce qui est arrivé? Elle est devenue un pilier de sel. Non, il dit, les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Regardons de l'avant. Abraham, il a levé les yeux, il a pu voir. Il a dit, il n'a rien reçu sur la terre. Dieu lui a promis plein de choses, il n'a rien reçu. Mais lui, il a dit, il avait les yeux fixés sur la cité céleste. Donc, il n'était pas déçu, parce qu'il savait que Dieu avait quelque chose pour lui. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Prions. Père céleste, encore une fois, nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. Nous sommes reconnaissants à toi pour... ce que tu veux nous enseigner. Et Seigneur, finalement, ce verset qui n'était pas très parlant au début, eh bien, il dit des choses très importantes. Et c'est un passage essentiel. Et c'est un principe que nous avons besoin de comprendre. Et tu n'as pas perdu ton temps à discuter sur des pratiques que n'importe qui peut faire. Toutes les religions ont des jeûnes. Mais tu voulais parler de ce qui caractérise le disciple de Jésus-Christ. C'est cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Seigneur, tu connais chaque cœur, tu sais où en est chacun. Et Seigneur, je te prie de parler et que, en sortant de cette porte, tout ne disparaisse pas. Que les oiseaux ne viennent pas enlever la semence du chemin, mais que cette semence pénètre dans les cœurs et porte du fruit à 30, 60 et 100%. C'est à la gloire de ton nom, Père, que nous prions. Amen. Thank you.